Le Verrou, Guy de Maupassant. Les quatre verres devant les dîneurs restaient à moitié pleins maintenant, ce qui indique généralement que les convives le sont tout à fait. On commençait à parler sans écouter les réponses, chacun ne s'occupant que de ce qui se passait en lui. Et les voix devenaient éclatantes, les gestes exubérants, les yeux allumés. C'était un dîner de garçons, de vieux garçons endurcis. Ils avaient fondé ce repas régulier une vingtaine d'années auparavant en le baptisant le célibat. Ils étaient alors 14, bien décidés à ne jamais prendre femme. Il restait 4 maintenant, 3 étaient morts et les 7 autres mariés. Ces 4-là tenaient bon et ils observaient scrupuleusement, autant qu'il en était en leur pouvoir, les règles établies au début de cette curieuse association. Ils s'étaient jurés, les mains dans les mains, de détourner de ce que l'on appelle le droit chemin toutes les femmes qu'ils pourraient, de préférence, celles des amis, de préférence, encore celles des amis les plus intimes. Aussi, dès que l'un d'eux quittait la société pour fonder une famille, ils avaient soin de se fâcher d'une façon définitive avec tous ses anciens compagnons. Ils devaient en outre, à chaque dîner, s'entre-confesser, se raconter avec tous les détails et les noms et les renseignements les plus précis leurs dernières aventures. D'où cette espèce de dicton devenu familier entre eux, mentir comme un célibataire. Il professait en outre le mépris le plus complet pour la femme, qu'il traitait de bête à plaisir. Il citait à tout instant Schopenhauer, leur dieu, réclamait le rétablissement des harems et des tours, avait fait broder sur le linge de table qui servait au dîner du célibat ce précepte ancien, mulier perpetuus infant, et au-dessus le vers d'Alfred de Vigny, la femme, enfant malade et 12 fois impure. De sorte qu'à force de mépriser les femmes, ils ne pensaient qu'à elles et ne vivaient que pour elles, tendaient vers elles tous leurs efforts, tous leurs désirs. Ceux d'entre eux qui s'étaient mariés les appelaient vieux galantins, les plaisantaient et les craignaient. C'était juste au moment de boire le champagne que devaient commencer les confidences au dîner du célibat. Ce jour-là, ces vieux, car ils étaient vieux à présent, et plus ils vieillissaient, plus ils se racontaient de surprenantes bonnes fortunes. Ces vieux furent intarissables. Chacun des quatre, depuis un mois, avait séduit au moins une femme par jour. Et quelles femmes ? Les plus jeunes, les plus nobles, les plus riches, les plus belles ! Quand ils eurent terminé leurs écrits, l'un d'eux, celui qui, ayant parlé le premier, avait dû ensuite écouter les autres, se leva. « Maintenant que nous avons fini de blaguer, dit-il, je me propose de vous raconter non pas ma dernière, mais ma première aventure. J'entends la première aventure de ma vie, ma première chute, car c'est une chute dans les bras d'une femme. Oh, je ne veux pas vous narrer mon tout premier début, non. Le premier fossé sauté, je dis fossé au figuré, n'a rien d'intéressant. Il est généralement boueux et on s'en relève un peu sali avec une charmante illusion de moins, une vague d'égout, une pointe de tristesse. Cette réalité de l'amour, la première fois qu'on la touche, répugne un peu. On la rêvait tout autre, plus délicate, plus fine. Il vous en reste une sensation morale et physique d'écœurement, comme lorsqu'on a mis la main par hasard en des choses poisseuses, qu'on n'a pas d'eau pour se laver, on a beau frotter, ça reste. Oui, mais comme on s'y accoutume bien et vite, je te crois qu'on s'y fait. Cependant, pour ma part, j'ai toujours regretté de ne pas avoir pu donner de conseils au Créateur au moment où il a organisé cette chose-là. Qu'est-ce que j'aurais imaginé ? Je ne le sais pas au juste, mais je crois que je l'aurais arrangé autrement. J'aurais cherché une combinaison plus convenable, plus poétique. Oui, plus poétique. Je trouve que le bon Dieu s'est montré vraiment trop naturaliste. Il a manqué de poésie dans son invention. Donc, ce que je veux vous raconter, c'est ma première femme du monde. La première femme du monde que j'ai séduite. Pardon, je veux dire, la première femme du monde qui m'a séduit. Car au début, c'est nous qui nous laissons prendre, tandis que plus tard, c'est la même chose. C'était une amie de ma mère, une femme charmante d'ailleurs. Ces êtres-là, quand ils sont chastes, c'est généralement par bêtise. Et quand ils sont amoureux, ils sont enragés. On nous accuse de les corrompre. Ah, bien oui, avec elle, c'est toujours le lapin qui commence et jamais le chasseur. Oh,
Elles n'ont pas l'air d'y toucher, je le sais. Mais elles y touchent. Elles font de nous ce qu'elles veulent, sans que cela paraisse. Et puis elles nous accusent de les avoir perdues, déshonorées, avilies, que sais-je.
Celle dont je parle nourrissait assurément une furieuse envie de se faire avilir par moi. Elle avait peut-être 35 ans, j'en comptais à peine 22. Je ne songeais pas plus à la séduire que je ne pensais à me faire trappiste. Or, un jour, comme je lui rendais visite et que je considérais avec étonnement son costume, un peignoir du matin considérablement ouvert, ouvert comme une porte d'église quand on sonne la messe, elle me prit la main, la serra, vous savez, la serra comme elle serre dans ces moments-là, avec un soupir demi-pâmé, ces soupirs qui viennent d'en bas. Elle me dit « Oh, ne me regardez pas comme ça, mon enfant !» Je devins plus rouge qu'une tomate et plus timide encore que d'habitude, naturellement. J'avais bien envie de m'en aller, mais elle me tenait la main et ferme. Elle la posa sur sa poitrine, une poitrine bien nourrie, et elle me dit « Tenez, sentez mon cœur comme il bat !» Certes, il battait, moi je commençais à saisir, mais je ne savais comment m'y prendre, ni par où commencer. J'ai changé depuis. Comme je demeurais toujours une main appuyée sur la grasse doublure de son cœur et l'autre main tenant mon chapeau, et comme je continuais à la regarder avec un sourire confus, un sourire niais, un sourire de peur, elle se redressa soudain et d'une voix irritée. « Ah ça, que me faites-vous, jeune homme, vous êtes indécent et mal appris !» Je retirai ma main bien vite, je cessai de sourire, je balbutiais des excuses, je me levais et je m'en allais abasourdi, la tête perdue. Mais j'étais pris, je rêvais d'elle, je la trouvais charmante, adorable, je me figurais que je l'aimais, que je l'avais toujours aimée, je résolus d'être entreprenant, téméraire même. Quand je la revis, elle eut pour moi un petit sourire en coulisses, oh, ce petit sourire comme il me troubla, et sa